Chapitre 8e. L'été était venu, les vacances. Les abeilles avaient délaissé le seringa pour les jasmins qui s'ouvraient, bien heureux. Et les enfants, leurs professeurs pour leurs parents qui souhaitaient voir l'été partir, les vacances finirent. L'air était limpide. Quand vous touchiez une branche, vous aviez la même impression qu'en touchant les aiguilles d'une montre soudain sans verre. Qu'il était doux pour Juliette d'avancer les branches de ce saule, de retarder ce peuplier, de mettre les vergnes à l'heure. Tous les désastres de la préciosité, mal qui consiste à traiter les objets comme des humains comme s'ils étaient dieux et vierges, les dieux comme des chats ou des belettes, mal que provoque non pas la vie dans les bibliothèques, mais les relations personnelles avec les saisons, les petits animaux, un excessif panthéisme et de la politesse envers la création, Juliette les entassait sous ses pas. Elle saluait les sources. Elle ajoutait, avec son canif, des fautes d'orthographe aux phrases amoureuses gravées depuis 30 ans dans les chênes du parc. Elle ouvrait son ombrelle à l'ombre, elle la fermait au soleil. Elle respirait avec le nez, elle plaçait sa bouche ouverte au-dessus des fleurs. Arrivée la veille, lasse de tant d'âmes, moustache et robe de chambre nouvelle, dans le même pré aux écrevisses où elle l'avait laissé, voilà un mois, elle cherchait Gérard. Gérard sans passé, Gérard sans mystère. Gérard, dont elle avait appris à connaître les gestes et les manies sur le père et même le grand-père de Gérard. Gérard qui avait mangé sa première bouillie, dont elle savait la recette, dans une assiette gravée, dont elle savait les initiales. Gérard qui avait bu tout le lait, tout l'alcool, toute l'eau de sa vie dans des verres, petits verres ou gobelets, dont elle avait lavé chacun, roulé sur des voitures dont elle connaissait le cocher et le cheval par leurs ascendants, chassé avec des chiens dont elle était depuis 20 ans la marraine. Gérard, dont elle avait vu le regard dans les yeux de sa grand-mère, la tache blanche à l'ongle de l'index droit dans l'index gauche de son grand-oncle, qui ne portait un signe, une breloque, une médaille dont elle ne sut l'origine, sur le teint duquel les rougeurs, les pâleurs, les jaunisses venaient d'un astre dont elle avait déjà vu les rayons se poser sur tous les ancêtres et cousins de Gérard. Gérard en compagnie de qui et sur qui elle avait fait ses premières expériences de physique, dont elle connaissait la résistance à l'électricité, dont elle avait étudié le sang au microscope, dont elle avait mesuré aussi la résistance à la pitié quand il tuait des oiseaux, des taupes, dont elle savait quel poids il soulevait ou arrachait à bout de bras. Gérard, qui ne pouvait sauter en hauteur plus de 1m58, 6m22 en longueur, et qui ne savait par cœur que le début de l'oraison d'Henriette d'Angleterre et la maison du berger. Comme si justement tout le connu s'était assemblé et disposé sur son fiancé. Ce que Juliette savait, ce qu'elle soupçonnait d'elle-même, était certes beaucoup plus vague. Elle ne se penchait qu'avec inquiétude sur son jeune passé. Elle y sentait des ombres qui plus tard deviendraient des lumières, des silences qui deviendraient des voix. La même buée voilait à son approche chacun de ses miroirs et chacun de ses souvenirs. Elle sentait l'inconnu travailler sur elle constamment d'un travail qui ne cesserait qu'à sa dernière heure. Mais Gérard, elle se rappelait le jour exact où une expression, devenue depuis favorite, était entrée dans son langage, le premier jour où il avait employé les mots « tendre une inondation »,« ovationner le roi ». Elle savait les dates exactes des jours où, pendant sa typhoïde, sa grippe espagnole, il avait été plus près de la mort et le degré de température extrême où il eût été porté en ce bas monde. La seule période qui fut pour Juliette une énigme, c'était les 8 jours que Gérard avait passé à Zurich avec la mission Vidal pour l'enseignement technique. Tout ce que la dernière amie de Don Juan se plaît à éparpiller en soupçons sur la vie entière de son séducteur, sur l'Alhambra, sur l'Escurial. Juliette le concentrait sur ses 8 jours de Zurich, sur le Polytechnicum et sur le Brennstoffkunde Séminaire. Zurich, huisse de l'inconnu, cité des mystères. Inconnue que d'ailleurs elle cultivait, car elle se gardait de poser sur ses 8 jours la moindre question à Gérard. Elle attendait quelquefois des mois entiers qu'il lui vint de cet inconnu un éclair, une illumination, sous la forme d'une allusion à la poule d'eau que Gérard avait poursuivie à la nage dans le lac, ou de Ventura, qu'il avait entendu dans le Staditeur jouer l'invitation au voyage, pièce dont chaque phrase, puisqu'il était au loin, l'invitait d'ailleurs à repartir vers Aigueperse, vers Juliette, et à regagner son foyer au plus vite. Le jour où elle apprit d'un tiers que Zurich était la ville la plus austère d'Europe, elle en voulut à Gérard, à l'hypocrite Gérard qui avait imposé à sa fiancée le nom d'un asile aussi vertueux pour symbole des dépravations. cher Gérard, qui se refusait obstinément à lui avouer le prix des bas de soie en Suisse, mais qui tenait de braconnier, dont elle aussi était l'élève, son cri pour appeler l'écaille ou son geste pour retirer les balances. Elle se réjouissait à l'idée de voir soudain apparaître entre les arbres l'être qui promenait dans le monde ce qu'elle en connaissait le plus, couvert de couleurs qu'elle-même avait choisies et de sweaters par elle tricotés. Il n'était pas loin. Le vent roulait vers elle la première page de son journal, dont il déchirait toujours le titre pour essuyer son rasoir, et qu'elle reconnaissait partout et cet anonymat, Juliette avança, se dissimulant derrière les vergnes. Le vent apportait le sifflement de cette chanson transmise par les cousines d'Hervelois. Il approchait, celui dont en fermant les yeux, en se bouchant les oreilles, en ne parlant pas, Juliette pouvait partager et comprendre pleinement la vie. Soudain, elle s'arrêta et se cacha. Gérard, se sachant seul et loin de tout, avait pris un bain et était nu. Elle le voyait de dos. Il écartait à bras tendus deux jeunes arbres et, penché sur l'eau, surveillait une ablette. Elle sentait que ce n'était qu'une ablette, à l'apathie à peine troublée des muscles. Une ligne séparait au poignet et au cou ce que Juliette connaissait de cet homme soudain nouveau, isolant la tête et les mains, de teinte un peu plus sombre. Une truite passa, tous les muscles se tendirent. Puis Gérard s'allongea dans l'herbe. Une pensée passa. Tout le dos, soudain, fut uni. Le soleil fut voilé par un nuage, reparut. Pour la première fois, Juliette voyait sur un corps entier ce jeu de la lumière et de l'ombre qu'elle aimait tant provoquer à la pension sur sa main étendue pour s'expliquer la vie, la mort, le froid, la chaleur et s'offrir en champ de bataille à Hormuz et Ahriman. C'était son fiancé tout entier qu'elle voyait maintenant soudain terne ou soudain transparent, à demi endormi sur cette couche où Hormuz et Ahriman, c'était bien eux, tiraient chacun à soi successivement la couverture, donnés tour à tour à une faible et tiède mort, puis à une bouillante et immobile vie. Il se leva d'un bond, se suspendit à un arbre, faisant de son corps à une branche connue la pesée que devaient faire d'eux-mêmes les Magdaléniens, soucieux de leur santé, de leur poids, et qui surveillaient leur régime. La branche se courbait. Juliette voyait ce que pèse, sur un chêne, sur le roi des arbres, l'humain préféré d'elle. Il s'arrêtait, écartait ou élevait les bras, feignait pour faire jouer ses muscles, de tirer sur un sandeau dont les élastiques étaient fixés au fond de l'horizon, bien loin derrière Juliette, arrivait péniblement à l'étendre, lâchait tout. Il marchait. Pour éviter les épines, les chardons, les flaques, il allait sur la pointe du pied, il bondissait. Il avait avec la terre tous ces gestes de réserve et d'enjouement, toute cette souplesse qu'on a avec son premier flirt. Il sautait à pieds joints dans le ruisseau. S'il respectait la terre, il brutalisait l'eau, sa conquête habituelle. Il ne se retournait toujours pas. Juliette ne voyait toujours que le dos, les épaules, qu'il avait très larges, qu'un des plus grands coupons de peau humaine sur lequel n'ait pas été apposé d'organes ou de sens. Une sorte de bouclier à l'abri duquel se passaient les opérations humaines qui consistent à rire, à penser, à dormir, aveugle et sourd comme un bouclier. Tout ce qu'il faut pour être surpris par derrière par sa fiancée ou par la mort le moins précautionneuse. Si bien que Juliette un moment se sentit triste, comme les Japonais qui ont enlevé le voile de ce monstre femme dont le visage ne contient ni bouche, ni yeux, ni oreilles et est désert comme un œuf. Si Gérard avait soudain marché à reculons, à la vue de ce monstre aveugle, elle eût crié. Enfin il se tourna, et elle le vit de face. Il était musclé. Elle vit une sorte d'armure sur laquelle étaient vissées la tête et les mains ses amis. Tout ce qui constitue une armure était là, avec des encoches et des arondes à la Louis XIV, au point où le buste s'articule, avec des côtes bombées, des brassards à la romaine et aux hanches de belles volutes en style Renaissance. Un insecte l'effleura. Toute l'armure frémit. Juliette ne fut pas fâchée de voir que l'homme a reçu pour armure ce qu'il y a de plus sensible aux blessures, au froid, au chatouillement, la peau et sa doublure de chair. Gérard avait évidemment l'habitude de se promener ainsi. Sa vie physique paraissait perfectionnée, il ramassa une branche avec son orteil, il grimpa à un arbre sans l'étreindre des genoux, il fit le saut périlleux. Prêtée provisoirement à ce corps en liberté, la tête et les mains elles-mêmes se donnaient elles aussi à cette ardeur primitive et inconnue que se transmettaient depuis des milliers d'années les ascendants de Gérard au-dessous des brais, des manches à crever, des péplums et des justaucorps. Il semblait à Juliette que c'était tous ses vêtements, antiques et modernes, que Gérard venait soudain de rejeter. Ce corps traîné à travers les âges par les Gérardini, les Géraldis, les Gérards, sous tant de soie ou de haillons, de pourpre ou de coton, et qui reparaissait soudain nu dans cet après-midi, s'entraînant pour lui-même ou quelque lointain successeur, les bras levés, écartés, croisés, à toutes les grandes opérations qu'on a demandées ou qu'on demandera aux hommes nus, à Abel, à Thésée, au Christ, à Saint-Sébastien. Juliette l'observait presque aussi pieusement qu'un mannequin chez un grand couturier. C'était le mannequin de tant de noblesse, de tant de lâcheté. Autour de lui, tous les animaux, les arbres, les rochers reprenaient cette vraie proportion de la nature à l'homme qui disparaît dès que l'homme a mis des talons. Tous ces rapports habilement contradictoires, qu'homme et nature entretenaient entre eux aux époques de la création, de propriétaires à esclaves, de nains à géants, d'esprits à matière ressuscités. Tous les poèmes de Desbordes de Valmore et de Millevoye reprenaient leur génie. Le protocole des êtres et des plantes était à nouveau en vigueur. À voir Gérard nu, la vraie hiérarchie s'établissait dans le cœur de Juliette entre les diverses essences et les divers oiseaux. Tout, à part Gérard, paraissait d'ailleurs si âgé, si périmé. Seul l'homme, ce soir, était jeune et sans histoire sur cette planète pour antiquaire, et ni les animaux ni les plantes n'avaient ce truc trouvé par Gérard pour rendre soudain une vérité à leur rôle sur la Terre. Belle leçon aussi donnée par un fiancé à sa fiancée pour délimiter dans le monde ce qui était lui. Gérard surgissait hors de ces objets ou de ces parures que Juliette eût risqué de confondre ou d'entraîner dans son affection avec lui-même. Dégagé de cet univers qui colle à l'homme ainsi que le papier gommé au clown, dégagé de l'immortalité des cravates, des breloques, dégagé de tous ces intermédiaires avec le couchant, le levant, que sont les couleurs des vêtements, échappé en pleine canicule à la sincère et froide nuit, somnambule du soleil et de midi que le moindre cri eût fait choir de ce vertige physique, il était tout entier là. De tout ce qu'elle voyait là de Gérard, rien n'était né avant lui, tout devait disparaître à sa mort. Juliette était émue de voir une vie humaine si nettement délimitée entre les limbes et les enfers. Elle fut prise de reconnaissance envers cette tête qui s'arrachait de l'éternité pour elle, qui pour elle collait sur un corps inconnu cette tête et ses mains héritées de famille, qui s'était fait homme pour elle et qui se condamnait pour elle à mourir. Comme Psyché, punie comme elle, elle vit son fiancé pâlir, mourir et disparaître. Maintenant il s'habillait. Il n'est pas sans charme de voir s'habiller les hommes. Celui-là sautait à pieds joints dans son pantalon, jetait en l'air sa veste, parvenait à enfiler les manches pendant qu'elle retombait, lançait les deux chaussettes roulées vers le ciel et les rattrapait dans son chapeau. Puis, ainsi terminée sa confession d'homme, à la façon du jongleur de Notre-Dame, il prit son fusil et disparut. Le soleil, à peu près immobile, disait l'heure par sa couleur à chaque minute changeante. Le ruisseau coulait, unissant avec un accent campagnard les bruits les plus distingués de jets d'eau, de sources, de débits hors de têtes de dauphins, de cascades, de fontaines lumineuses, parfois des glouglous de gouffres. Ou bien il gémissait, lassé de sa pente éternelle, n'espérant plus dans ses interventions de Jéhovah ou de Moïse, qu'il avait une fois ramené à sa source, par l'écluse de Bourg-Chaumel et le creux du Rhin. Juliette avait retiré ses souliers, ses bas et les pieds dans l'eau, sur la piste même de l'Ancien Testament, remontait le ruisseau jusqu'à ce creux du Rhin où Gérard se baignait. C'était une piscine profonde et transparente d'où montaient des bulles qu'escortait un Véron. C'était une source presque glacée, jaillissant à même le cours d'eau comme celle de Jouvence. C'était cette eau miraculeuse qui donne la jeunesse aux jeunes, la force aux forts, au bon la bonté. Juliette arracha ses vêtements et se préparait à plonger, quand un coup de feu retentit tout près, annonçant Gérard. À peine eut-elle le temps de s'envelopper dans un manteau déposé sur la berge, le manteau écossais de haute laine commandé spécialement par Gérard pour son voyage de noces, que le chasseur, brandissant son fusil, se précipitait vers elle, gibier qu'on ne tue pas. « N'approche pas, Gérard, ou je me jette à l'eau !» Il s'était arrêté net. Il la considérait tendrement, de ses yeux si durs aux cailles et aux gélinottes. Sous ce soleil qui rend bien portant les futurs centenaires, plein d'espoir ceux qui seront heureux, il luisait et il déchargeait machinalement son arme devant Juliette, comme tout bon chasseur le fait devant les obstacles trop hauts à franchir. « Oh, Juliette » criait-il, « d'où viens-tu ? » « N'approche pas, Gérard, ou je me jette à l'eau. Qu'as-tu fait pendant mon absence ? Tu m'avais juré de ne pas étreiner ton manteau sans moi. » « Tu es toujours avec moi, Juliette. D'ailleurs, je ne l'étreignais pas. Je le portais aux Hervelois, qui veulent tous le voir, car ils ont su son arrivée par les Foultrias. Prends garde, ne laisse pas traîner ainsi ses manches. Le sable là est humide. » C'est ainsi qu'ils s'amusaient à mettre le manteau écossais entre eux pour leur première rencontre, comme deux amoureux, méfiant d'eux-mêmes un enfant. Ils la contemplaient. Ils la trouvaient nouvelle. Certes, ils reconnaissaient sous le manteau, en homme avisé, ce corps, la respiration de ce corps, ses frémissements, mais le visage de Juliette avait changé. Ses pieds nus, qu'il avait si rarement pu voir, c'était bien eux, mais ils ne reconnaissaient plus les mains. Tout ce que Juliette avait offert nu à Paris, aux archéologues, aux charmeurs défunts de serpents, aux poètes, aux exilés russes, en revenait avec un nouveau hâle et un nouveau parfum. Ses yeux surtout, de myope au départ, semblaient devenus presbytes. Elle était à 2 mètres à peine et Gérard avait l'impression d'être regardé de si loin. « Enfin, te voilà, Juliette. Quand nous marions-nous ? » « Je t'en supplie, ne l'accroche pas aux ronces. Tu vois, je ne l'ai pas portée. Quelques boutonnières sont encore cousues. » Elle le savait diable bien. Elle était obligée de le maintenir contre elle comme un plaid. « Pourquoi l'as-tu pris rayé, Gérard ? Tu savais pourtant que je préfère la robe des hommes et des animaux tachetés. Je t'aurais adoré en léopard. Je te détesterais en tigre. N'approche pas. Comme tu as bonne mine. Tu es superbe ce soir. » Car elle était poussée, protégée par ce manteau de laine pure, à couvrir Gérard de louanges. D'abord, elle le couvrit des éloges réservés aux enfants. Il avait grandi. Il paraissait si sage. Que ses oreilles étaient rouges. Puis des compliments réservés aux hommes. Ses sourcils s'étaient rejoints pendant son absence. La raie laissée à droite était à gauche. Les lèvres ne se rejoignaient plus. Sa tête en un mois avait joué. Puis de ceux qu'on fait aux vieillards. Pas une ride à sa bouche, pas un seul cheveu blanc. Gérard laissait se promener sur lui la lanterne de l'âge et répondait à dessein par tout ce qu'on peut trouver de plus banal en fait d'aveu et d'amour. Elle était ravissante, sa robe lui allait. Mais la banalité au cœur de l'été, au cœur de la jeunesse, c'est juste le génie au cœur de la vieillesse et de l'hiver. « Quels ongles bien vernis tu as, Gérard, mais dis-moi, où l'as-tu acheté ?» Il cacha ses mains derrière son dos. Ils furent tous deux face à face, sans mains et sans bras. « En Angleterre, Juliette, les experts prétendent qu'il supportera mieux la poussière que la pluie. Ce sera pour Naples, quand le vent soufflera et nous ombragera avec les fumées du Vésuve. C'est un manteau excellent pour les fumées du Vésuve, pour les soufres de Sicile, contre la lave. Merci de tes lettres, Juliette. As-tu revu la jeune archéologue ? Depuis la visite que tu lui fis, je me surprends, parfois, par 3 nids en ruine vus dans les arbres, par un squelette trouvé sous une gerbe, à reconstituer pour un pré, donner la république des oiseaux et des rats, telle qu'elle était voilà 300. As-tu remis mes fleurs à Doras et Lamloff ? Qu'elle devait être belle, dans son fauteuil de rotin, poignardée par ce danseur amoureux. Caresse-le, tu verras, rien de plus soyeux. Car il essayait d'attirer au dehors ses bras nus. « Oh, Gérard, mon ami, que je suis aise de me marier. Quel beau voyage nous allons faire. Tu me défendras des choulos en Espagne, des ruffians à Venise, des faquins à Vérone. J'ai appris tous les noms qui désignent ceux dont un jeune époux doit protéger sa femme. Tu me protégeras des tranvieri dans les tramways, des controllori dans les trains. Voici que je ne serai plus seul désormais dans la vie, à Naples, en face des camoristi, à Rome, en face des tépisti. » Tu vois comme ses boutons sont mal cousus. N'approche pas, tu ne peux pas le retrouver dans cette herbe. Ne plaisante pas, Juliette, m'aimes-tu ? Comme tu sais peu de choses, Gérard, je ne croyais pas en partant pour Paris avoir un fiancé aussi ignorant. Tu ne sais pas que les Assyro-Chaldéens ne croient pas au péché originel. Ou tu me l'as caché 20 ans. Tu ignores la date de l'avènement de sa port, peut-être même la date de sa chute. Ou tu as voulu être le seul à le savoir dans Aigueperse. Tu ne sais pas que la mort compte à peine et que tout l'intérêt de la vie, c'est le monologue intérieur. Ou tu t'entêtes à croire la mort plus forte que tout. Tu ignores qu'un chien à Sainte va tous les matins et tous les soirs sonner l'Angélus. Tu ignores que dans la langue des Guarani, l'adjectif se place au cœur du nom, l'article au cœur de l'adjectif. Parle franchement. Tout cela le savais-tu ? Sais-tu même le premier constructeur des pyramides ? C'est Khéops, en l'an 1300 avant Jésus-Christ. Ne plaisante pas, Juliette, m'aimes-tu ? Il piétinait sur sa ligne, comme un coureur à pied auquel on va donner le départ de sa vie. Juliette était plus émue d'avoir fait jaillir un éclat de science de ce beau chasseur de perdrix que l'ancêtre qui découvrit le feu en frappant des silex. « Et comme tu m'as menti, Gérard, la litote, le douanier Rousseau, les dadas sont exactement le contraire de ce que tu prétendais, exactement. Et comme tu te moquais de moi, quand j'ai voulu savoir la nourriture des grands hommes, j'ai vérifié. Il est faux que Stendhal se nourrissait de pilaf, et Balzac de Devanneau. Comme tu m'as maltraité aussi dans la vie. Quand j'étais petit, tu me ramenais chaque soir avant 6 heures à la maison, malgré mes cris, car je voulais voir coucher le soleil. J'ai fait le calcul à Paris. Tu m'as privé de 700 ou 800 couchers de soleil. Étonne-toi un jour si tu as une femme, aux approches de la nuit, bornée et insensible. Mais il n'était plus temps de plaisanter. Gérard avait les larmes aux yeux, toute patience le quittait. Je compte jusqu'à 3, Juliette. Une fois, m'aimes-tu? Je t'aime, mon petit Gérard. N'attends pas 3. Viens m'embrasser. Serre-moi dans tes bras. Alors plein de passion, délié magiquement, il se précipita vers elle, les bras ouverts. Mais déjà Juliette, comble d'affection, d'amitié et d'amour, avait plongé dans le creux du rang avec le manteau écossais.